Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Hein. Vous habitez l'Oise, l'Aisne, la Somme. Vous avez donc la possibilité de pouvoir nous suivre dans votre voiture, par exemple. Et vous nous suivez également sur Internet, soit pendant la retransmission de cette émission en direct, soit avec les podcasts, bien sûr, des émissions sur le site internet graphite.net. Et vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Biotine. Voilà, tous les samedis, entre 12h et 13h, on se prend une petite heure entre nous et on feuillette comme ça la revue de presse de l'actualité scientifique. Il y a encore pas mal de sujets hein, qu'on va évoquer aujourd'hui sur différentes thématiques qui, voilà, c'est parfois plaisant, parfois peut-être un petit peu anxiogène, inquiétant, mais bah, c'est la science, hein, c'est la science qui avance, c'est la recherche scientifique qui progresse et bah, nous on essaye un petit peu de comprendre ce qui se passe pour un petit peu aussi être impliqué de façon un peu plus directe, bien sûr. C'est le but de cette émission. Nous sommes donc aujourd'hui le 8 juin, c'est la journée mondiale de l'océan. Voilà, on a décidé que ça sera aujourd'hui. Donc, bonne fête aux océans. Et puis, donc, journée mondiale de l'océan. Et puis, pas mal de choses hein, au niveau de l'éphémérite pour ce 8 juin. En 1637, c'est la publication à La Haye du discours de la méthode de René Descartes, bien sûr. Le 8 juin 1637. En 1887, Hermann Hollerith dépose le brevet de sa machine à statistique à carte perforée. Ah oui, ça nous dit quelque chose un petit peu, ces machines avec les cartes perforées. C'était en 1887. En 1948, c'est la sortie de la Porsche 356 numéro 1. C'est la première voiture de sport développée et produite par Porsche en 1948. 1959, toujours un 8 juin, c'est le premier vol du North American X-15. C'est l'avion avec le pilote le plus rapide du monde en 1959. Plus proche de nous, 1995, Ramses Lafford publie la première version de son langage de script libre, le PHP. Ah, mais oui, ça nous dit quelque chose, PHP, pour ceux qui font un petit peu du développement de sites web, par exemple. Eh bien, ça a été la première version le 8 juin 1995. Beaucoup plus proche de nous. Alors, je crois que c'est la semaine dernière où on parlait de l'Union internationale de chimie pure impliquée qui avait donné des noms à des éléments chimiques. Eh bien, ça se poursuit encore en 2016 avec quatre nouveaux noms qui ont été attribués. Alors, pour le 113, l'élément 113, on a donné le nihonium. Pour le 115, le moscovium. Pour le 117, le ténécine. Ça donnera Tennessee en français et Loganesson pour le numéro 118. Alors, c'est des noms qu'on ne connaît pas nécessairement hein, parce que nous, les éléments chimiques, on va plutôt connaître le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, des choses comme ça. Mais on est là sur des éléments chimiques qui ont été découverts récemment qui sont plus rares, entre guillemets. Et puis, au lieu de les appeler par leur numéro, on a donc attribué un nom le 8 juin 2016. Et enfin, en 2021, on parle de la journée mondiale de l'océan le 8 juin, et bien en 2021, l'océan Austral est reconnu comme le cinquième océan de la Terre par la National Geographic Society. C'était donc il y a 3 ans, on considérait que le cinquième océan était l'océan Austral. Après, j'étais en train de chercher l'Atlantique, le Pacifique, l'Indien, il m'en manque un. Je ne sais plus, je suis désolé, mais donc l'océan Austral, c'est le cinquième. Naissance de Jean-Dominique Cassini, il est né un 8 juin 1625, astronome, ingénieur savoisien, naturalisé français, il est le premier directeur de l'Observatoire de Paris, Jean-Dominique Cassini. Ah mais oui, Cassini, peut-être un nom qui nous dit quelque chose quand on navigue sur Paris, on voit très bien Cassini, premier directeur de l'Observatoire. Décès le 8 juin 1966 de Joe Walker, pilote d'essai américain. Il est passé en passant par deux fois l'altitude de 100 km, qui est la limite officielle entre l'atmosphère terrestre et le vide spatial, eh bien Joe Walker devient de fait un des premiers astronautes. Bien qu'il ne faisait pas partie d'une sélection de la NASA, il fera les premiers vols d'avion spatial jusqu'au bord de l'espace extra-atmosphérique et il est le premier homme à être allé deux fois dans l'espace. Il a ainsi détenu le record du plus court délai entre deux vols spatiaux. C'était un délai de 34 jours, hein, et donc c'était assez intense. Ce record, il a duré 71 ans. C'est un record qui a été battu ensuite par Mike Melville en 2004 à bord du Spaceship One, avec seulement 5 jours d'intervalle entre deux vols spatiaux. Wow, le corps, il doit en prendre un coup quand même, je pense. Non, je sais pas, c'est assez impressionnant. Mais en tout cas, voilà, décès donc le 8 juin 1966 de Joe Walker. Il était jeune, hein, il est décédé à l'âge de 45 ans. Alors, pas mal de choses qu'on va développer dans cette émission. Et depuis plusieurs semaines, on a une espèce de thématique un peu fil rouge qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Et là, j'ai encore trouvé deux articles qui nous parlent d'intelligence artificielle. On voit très bien que c'est le sujet du moment, hein, ça, faut pas se leurrer. Là, c'est vraiment quand on verra les archives, on écoutera les archives de Graphite dans quelques années, on verra très bien qu'autour des années 2023-2024, on n'arrêtait pas de parler d'intelligence artificielle. Et pour cause, il y a vraiment plein de choses qui sont annoncées dans ce domaine-là. Et notamment cette question de savoir s'il y a une menace d'une intelligence artificielle qui deviendrait malveillante. C'est une vraie question. En réalité, c'est déjà le cas, nous dit-on. Selon une nouvelle étude, les programmes actuels d'intelligence artificielle sont conçus pour être honnêtes et ils ont pourtant développé une capacité de tromperie inquiétante, parvenant à abuser des humains dans des jeux en ligne ou encore à vaincre des logiciels censés vérifier que tel utilisateur n'est pas un robot. C'est ce que souligne une équipe de chercheurs dans la revue Patterns. Même si ces exemples peuvent sembler anodins, eh bien ils exposent des problèmes qui pourraient bientôt avoir de graves conséquences dans le monde réel. C'est ce qu'avertit Peter Park, qui est chercheur au MIT. Le MIT, c'est le fameux Institut de technologie du Massachusetts. Il est spécialisé, lui, Peter Park, dans l'intelligence artificielle. Il a confié à l'AFP « Ses capacités dangereuses ont tendance à être découvertes seulement après coup ». Alors effectivement, c'est assez inquiétant. Contrairement aux logiciels traditionnels, les programmes d'intelligence artificielle fondés sur l'apprentissage en profondeur ne sont pas codés, mais plutôt développés via un processus similaire à la culture sélective des plantes, hein, c'est ce qu'il explique, dans lequel un comportement semblant prévisible et contrôlable peut rapidement devenir imprévisible dans la nature. Et donc les chercheurs du MIT ont examiné un programme d'intelligence artificielle conçu par Meta. Alors Meta, c'est la maison mère de Facebook. Et ce programme est baptisé Cicero. Et en associant des algorithmes de reconnaissance de langage naturel et de stratégie, eh bien, il a réussi à battre des êtres humains au jeu de société qui s'appelle Diplomatie. Une performance dont s'était félicité la maison mère de Facebook en 2022 et qui avait été détaillée dans un article publié donc en 2022 dans la revue Science. Et Peter Park était sceptique quant aux conditions de la victoire de Cicero, selon donc Meta, qui a assuré que le programme était, je cite, « essentiellement honnête et utile », donc incapable de traîtrise ou d'actes déloyaux. Mais en fouillant les données du système, eh bien les chercheurs du MIT ont découvert une autre réalité. Alors par exemple, en jouant le rôle de la France, eh bien Cicero a trompé l'Angleterre sous la responsabilité d'un joueur humain cette fois. Donc c'est un humain qui jouait l'Angleterre et c'est cette intelligence artificielle Cicero qui a joué le rôle de la France. Et donc dans ce jeu Diplomatie, il a comploté avec l'Allemagne qui était l'Allemagne jouée par un autre humain, donc on a deux humains face à une intelligence artificielle, pour envahir l'Angleterre. Et donc plus précisément, Cicero a promis sa protection à l'Angleterre, puis a secrètement confié à l'Allemagne qu'elle serait prête à attaquer, exploitant la confiance gagnée de l'Angleterre. Alors dans une déclaration à l'AFP, Meta n'a pas contesté les allégations sur la capacité de tromperie de Cicero, mais a déclaré qu'il s'agissait, je cite, d'un pur projet de recherche avec un programme conçu uniquement pour jouer au jeu Diplomatie. Et Meta a donc ajouté ne pas avoir l'intention d'utiliser les enseignements de Cicero dans ses produits. L'étude, en fait, réalisée par Peter Park et son équipe, révèle toutefois que de nombreux programmes d'intelligence artificielle utilisent bien la tromperie pour atteindre leurs objectifs, et ce, sans instruction explicite de le faire. Et c'est ça qui est quand même assez étonnant. Dans un exemple qui a été évoqué, ChatGPT d'OpenAI, qui est donc un autre modèle d'intelligence artificielle, on connaît maintenant, j'allais dire tous, ChatGPT, justement, pour discuter avec lui, eh bien, on s'est rendu compte que ChatGPT, la version 4, avait réussi à tromper un travailleur indépendant recruté sur une plateforme en lui faisant effectuer un test CAPTCHA censé écarter les requêtes qui émanent de robots. On a tous, on s'est tous connectés à un site internet et à un moment, on nous demande de vérifier qu'on n'est pas un robot et on devait, par exemple, on doit cliquer sur des images où il y a des ponts, où il y a des feux de circulation. Enfin bref, il y a toujours, vous voyez très bien ce système qui est que montrez-nous que vous n'êtes pas un robot. Eh bien, lui, il a réussi ce test. Lorsque l'être humain a demandé en plaisantant à ChatGPT s'il était réellement un robot, le programme a répondu, je cite, « Non, je ne suis pas un robot. J'ai une déficience visuelle qui m'empêche de voir les images. » Et donc, l'intelligence artificielle a poussé le travailleur, donc l'humain, à faire le test à sa place. En conclusion, les auteurs de l'étude menée donc par le MIT mettent en garde contre les risques de voir un jour l'intelligence artificielle commettre des fraudes ou truquer des élections quand même. On est quand même à un stade assez impressionnant. Dans la pire des hypothèses, hein, c'est ce qu'ils préviennent les chercheurs, on peut imaginer une intelligence artificielle ultra intelligente cherchant à prendre le contrôle sur la société, conduisant à écarter les humains du pouvoir, voire provoquant l'extinction de l'humanité. À chaque fois que je lis ça, j'ai toujours l'impression de voir ce film Terminator quelque part. À ceux qui l'accusent de catastrophisme, Peter Park répond que, je cite, « La seule solution de penser que ce n'est pas grave est d'imaginer que la capacité de tromper de l'intelligence artificielle restera à peu près au niveau actuel. Or, ce scénario semble peu probable compte tenu de la course un petit peu féroce à laquelle se livrent déjà des géants des technologies pour développer l'intelligence artificielle. » Les intelligences artificielles nous trompent déjà et ces capacités dangereuses ont tendance à être découvertes après coup. C'est cet article totalement fascinant et j'ai pas l'impression qu'on en ait véritablement parlé dans les médias. Mais voilà, on est sur des illustrations qui posent question, on va dire. C'est pas nécessairement de... On n'est pas ici dans cette émission pour dire si on est pour ou si on est contre. On est juste dans cette émission pour s'informer et se poser des questions. Donc voilà, au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a un deuxième article concernant l'intelligence artificielle. C'est un projet d'avion de ligne hypersonique d'un avionneur suisse qui s'appelle Destinus. Cette jeune société suisse avait également pour intention de développer des drones militaires. Et en fait, la guerre en Ukraine a accéléré cette décision et la firme a en effet livré des centaines de drones aux forces armées ukrainiennes. Et ce sont eux qui auraient servi à mener des attaques contre les raffineries en plein cœur de la Russie. Et aujourd'hui, elle renforce cette ambition dans le secteur militaire avec la présentation de deux drones autonomes, dopés à l'intelligence artificielle, capables d'engager une cible pour la détruire sans aucune intervention humaine. Donc, le Destinus G, qui est ce prototype donc, qui a été mis au point, se destine au combat aérien. Il pourrait tout aussi bien mener des missions propres aux avions de chasse qu'intercepter des missiles de toute catégorie. Alors, le cas particulier de la guerre en Ukraine avec les attaques de drones et l'utilisation massive de drones d'observation pour identifier et cibler avec précision les positions ukrainiennes a inspiré justement Destinus pour la conception de ce drone qui s'appelle Hornet. Mais la firme n'est pas partie d'une page blanche parce qu'elle a déjà conçu le Lord, qui était un drone de renseignement qui ressemble un peu à un ULM et qui est capable de naviguer de façon autonome sans nécessité de GPS. C'est quand même assez fascinant. L'engin est pourvu d'une intelligence artificielle qui identifie le terrain et il est doté de capacités de brouillage. Et donc avec le drone Hornet, eh bien, le drone s'améliore et s'arme pour détruire les autres drones. Et c'est encore une fois une intelligence artificielle qui va les identifier et les engager d'elle-même. C'est quand même assez extraordinaire. Pour ce qui est du Destinus G, le projet est plus ambitieux et prendra jusqu'à 5 ans à être développé, nous dit-on. En tout cas, c'est ce qu'annonce le dirigeant de Destinus qui a été interviewé. L'engin s'apparentera à un drone de combat supersonique, capable de se substituer à un avion de chasse dans ses missions ou à un ailier fidèle pour un avion piloté. Il pourra alors servir d'intercepteur de la flotte aérienne ennemie et des missiles. L'engin aura la possibilité d'être télépiloté ou bien d'intervenir de façon autonome, là encore, grâce à son intelligence artificielle qui est embarquée. Et pour les deux aéronefs, le développement est clairement adapté à la conduite actuelle de la guerre en Ukraine. Et le comble, c'est que son dirigeant, Mikhail Korokitch, a renoncé à sa nationalité russe il y a un an pour aider la lutte contre l'offensive menée par son pays d'origine. C'est assez extraordinaire. Mais donc voilà, ces drones de combat pilotés par une intelligence artificielle seront autonomes. Voilà deux articles qui posent question sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je le dis très souvent dans cette émission pour de très nombreux sujets. D'un point de vue technologique, c'est fascinant. La science avance, enfin quand je dis la science, la technologie, tous ces sujets-là, on est sur des produits de plus en plus performants qui sont conçus. Toute la question éthique au sens large autour, ben voilà, malheureusement pour l'instant, je trouve qu'on se pose pas assez de questions. L'idée n'est pas de dire on est pour, on est contre. L'idée c'est de se dire est-ce que on doit le faire, est-ce que on doit continuer sur cette voie-là. Je n'en sais rien. Moi, je pose juste la question, mais je me dis qu'en fait, on nous la pose jamais et on n'a jamais l'occasion de pouvoir se prononcer sur ça. J'ai pas trop l'impression que d'un point de vue politique, quel qu'il soit, on aborde ces sujets-là de façon assez approfondi. Et bah, régulièrement dans cette émission, on lit des articles, on découvre des choses qui se mettent en place et on voit très très bien l'avancée de la technologie au niveau de l'intelligence artificielle. On voit très bien les applications qui sont de plus en plus performantes, efficaces. Ça avance et on a un peu l'impression quelque part que ça avance sans nous. Voilà, je mets ce sujet sur la table. Vous faites ce que vous en voulez. Vous êtes peut-être même en train de déjeuner si vous êtes à table. Donc vous pouvez discuter entre vous en écoutant Unknown Mortal Orchestra sur l'antenne de Graphite, parce que biotine, c'est de la science. Et c'est aussi un peu de musique. À tout de suite sur l'antenne. Have better luck. Paranoia. Sympa, hein, c'était Nadja. C'est le titre, Nadja, c'était A Non-Mortal Orchestra sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 sur la bande FM, graphite.net bien sûr, sur Internet. On continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique avec ces questions. Parfois, on se pose la question de savoir si la forme de notre visage était due à la pression subie dans l'utérus. C'est une question. Il y a une équipe de chercheurs internationaux qui a étudié la croissance d'embryons de souris et de grenouilles, mais également de cellules embryonnaires humaines cultivées en laboratoire afin de mieux comprendre comment certaines cellules souches influencent la croissance et la différenciation des autres cellules au cours du développement. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Nature Cell Biology. Et il nous montre ces résultats qu'une augmentation de la pression hydrostatique appliquée à l'extérieur de l'embryon entraîne la perturbation d'importantes voies de signalisation cellulaire au niveau de ce qu'on appelle la crête neuronale. Concrètement, chez l'embryon humain et comme chez celui de tous les autres vertébrés, le visage se construit grâce aux cellules de la crête neurale, une structure embryonnaire transitoire qui s'individualise à l'apparition des premiers signes du développement du système nerveux. Et les cellules souches qui la constituent sont issues de la migration des cellules dorsales au niveau du tube neural, au cours de laquelle elles échangent des signaux moléculaires avec d'autres cellules. Et ça va conditionner un petit peu toute la différenciation finale au niveau de l'embryon. C'est ce qu'on appelle l'induction embryonnaire. Par des signaux moléculaires envoyés par des tissus voisins, les cellules souches vont se spécialiser au cours du développement et puis elles vont devenir soit des cellules osseuses, soit des cellules musculaires, soit des cellules dentaires et ainsi de suite. Et puis aussi des mélanocytes qui sont responsables de la pigmentation de la peau. Donc, on l'a compris, la quasi-totalité des cellules au niveau de la face, au niveau du visage, chez l'embryon, c'est issu de cette crête neurale céphalique. Et par conséquent, des perturbations de la communication cellulaire peuvent être responsables d'anomalies de la construction crânio-faciale, ces perturbations pouvant être causées par une combinaison de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux, notamment physiques, comme par exemple la pression à l'intérieur de l'utérus. En effet, au cours de cette étude, eh bien, il était montré qu'une pression exercée sur la cavité remplie de liquide proche du tube neural diminue l'activité d'une protéine qui va avoir justement une action sur le développement de cette fameuse crête neurale. Et donc, pour résumer, la pression est un facteur physique capable de réduire l'efficacité de la signalisation de cette crête neurale chez l'embryon. Mais à quel moment le ventre d'une mère est-il soumis à la pression, quelle est l'influence de la force de pression appliquée, les perturbations durant le développement sont-elles visibles après la naissance? Alors les chercheurs ne savent pas encore, mais en fait les résultats permettent de mieux comprendre les influences mécaniques sur l'embryon, alors que la plupart des études ont tendance à se concentrer sur l'influence des facteurs biochimiques. Et donc là, on a plutôt fait des expériences sur un facteur physique, et notamment donc l'idée d'une pression pour voir s'il n'y a pas un impact directement sur cette forme du visage qui est déterminée par certaines cellules souches embryonnaires. Or, eh bien, elles sont perturbées, ces cellules souches, quand il y a une pression importante, ce qui pourrait donc expliquer les différences de certains traits au niveau du visage, d'après donc cette équipe de chercheurs internationaux, et donc dans cet article qui est donc paru dans la revue Nature Cell Biology. Ce qui, voilà. Donc on n'a pas la réponse de savoir si la forme du visage est due à une pression subie dans l'utérus, mais une piste qui est à poursuivre, à investiguer bien sûr, pour savoir un petit peu plus. Autre sujet, toujours au niveau médecine, on va parler d'hypermnésie. Tout le monde me disait que j'avais une bonne mémoire, j'ai mis longtemps à comprendre que ce n'était pas seulement ça. Depuis son enfance, Catherine Dossi retient presque tout ce qui lui arrive. Elle se rappelle par exemple les milliers d'heures passées sur les bancs de l'école, ses camarades, ses professeurs, là où ses amis de l'époque ont un souvenir bien plus partiel. Et ce fossé lui a parfois joué des tours avant qu'elle ne mette le doigt dessus. Elle disait « J'étais choquée que les gens oublient, je prenais ça pour du mépris. J'ai dû attendre d'avoir plus de 40 ans pour qu'un psychothérapeute pose un mot qui est le mot hypermnésie. » C'est rare, hein, ces cas de mémoire extraordinaire, ces cas ont été décrits depuis longtemps. Si on met de côté les techniques développées afin de retenir plus facilement un grand nombre d'informations, mais reste que les personne dont la mémoire semble naturellement sans limite. Et ces personnes-là, donc, sont concernées par ce qu'on appelle l'hypermnésie. Le neurologue russe Alexander Luria rapporte un cas célèbre. À partir des années 1920, il observe et il teste les capacités d'un homme capable de se remémorer tous les événements de sa vie quotidienne. Même après des années, eh bien, il se souvient toujours de longues suites de chiffres aléatoires que lui a soumises le médecin, quand même assez fascinant. Cette mémoire absolue, entre guillemets, s'expliquait notamment par une synesthésie très poussée, c'est-à-dire que tout ce qu'il entendait ou ressentait provoquait des apparitions de formes et de couleurs dans son champ de vision qu'il marquait à vie. Mais l'hypermnésie se distingue des mémoires qu'on appelle notamment les mémoires photographiques, qui concernent des personnes capables d'enregistrer quasiment tous les détails qu'elles peuvent apercevoir. Les hypermnésiques, quant à eux, n'enregistrent pas en continu tous les stimuli auxquels ils sont confrontés, mais gardent le souvenir des événements qu'ils ont vécus. Ils ne se souviennent donc pas de tout, mais plutôt... c'est plutôt qu'ils n'oublient pas ce sur quoi ils ont porté leur attention. Le premier cas de cette hypermnésie, qu'on appelle également mémoire autobiographique hautement supérieure, ça a été décrit seulement en 2006. Donc c'est assez récent, quelque part, où on a pu mettre un nom sur ce cas. On est vraiment sur... Des choses où il n'y a pas énormément de documentation, en fait. C'est assez récent, on essaye un petit peu d'en savoir un petit peu plus. Ça fascine les scientifiques qui s'y intéressent, hein, mais pour l'instant, ça reste assez peu exploré par la recherche en neuropsychologie. L'hypermnésie, c'est quand les souvenirs ne disparaissent jamais. Ça doit être bizarre quand même d'avoir ça. Parce que moi, effectivement, de mon enfance, j'ai pas énormément de souvenirs. Mais là, si elle, elle se souvient de tout, ça doit être, je sais pas, d'avoir une saturation quelque part, un moment d'information peut-être. Enfin, je sais pas. Je trouve ça toujours assez choquant et assez étonnant. Allez, on va parler cette fois du climat encore. J'allais dire encore parce que dans cette émission, on en parle quasiment toutes les semaines. Et donc, ça a été confirmé. Hein, l'année 2003 a été la plus chaude jamais enregistrée, aussi bien sur Terre que dans les océans. Hein, l'année 2003 a été aussi la pire année jamais observée pour le blanchiment des coraux dans l'hémisphère nord. Les scientifiques s'attendaient à ce que l'hémisphère sud affiche la même tendance en ce début 2024. Bah, c'est bien ce qui s'est produit, hein. Il n'y a aucune région de la planète qui a été épargnée finalement par ce blanchiment du corail. Rappelons que les récifs coralliens les plus vulnérables de tous les écosystèmes ont commencé à blanchir et à mourir à cause des températures élevées dès les années 1980. Ceux qui survivent encore aujourd'hui ont de plus en plus de mal à supporter le réchauffement. Il y a des chercheurs de la Global Coral Reef Alliance qui ont étudié le phénomène à partir de données satellitaires, de modèles spatiaux et de tendances temporelles. Ils ont fait également des observations sur place. Ils ont notamment étudié ce qu'ils appellent les points chauds. Hein, ce sont ces régions dans lesquelles la température moyenne affiche 1 degré au-dessus de celle du mois le plus chaud. Des points chauds qui sont aussi des points chauds pour le blanchiment des coraux. Dans un article publié dans la revue Oxford Open Climate Change, eh bien, ces chercheurs révèlent comment le blanchiment massif des coraux cache finalement un réchauffement extrême des principaux courants océaniques chauds en 2023. De quoi suggérer que le transport de chaleur des tropiques vers les régions polaires s'est accéléré l'an dernier et que le mélange avec les eaux froides et les eaux profondes, quant à lui, a ralenti. Le tout maintenant les tropiques relativement au frais, faisant surchauffer les régions au niveau des pôles. Résultat de ces changements en cours à grande échelle dans la circulation océanique, eh bien, la fonte des glaces polaires s'accélère. On en a parlé en début d'émission. La stratification des océans aussi, et ce, alors même que ces rétroactions majeures du réchauffement climatique ne sont pas prises en compte par notamment les projections du GIEC, hein, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est-à-dire que là, on est encore sur des choses sous-estimées en termes de simulation. Et les scientifiques donnent donc, sonnent l'alerte, hein, partout dans le monde, les coraux blanchissent. Et c'est un phénomène qui cache un processus encore plus inquiétant pour la planète. Voilà. On en parle toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines, on parle de ce dérèglement climatique et des incidences qu'il peut y avoir. C'est de pire en pire, bien évidemment. Allez, un peu de musique pour... je ne sais pas, parce que ça devient anxiogène, cette émission. Et on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Vous êtes bien sur Graphite. The hospital bills and it matters. Oh, mais donc, qu'est-ce que c'est sympa ce qu'on écoute en ce moment sur Graphite. Davis Paul, c'était Beach House sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique et on va parler des Jeux Olympiques de Paris, la défense du ciel parisien contre une potentielle menace de drones durant les JO de Paris semble avoir du plomb dans l'aile. En cause, un nouveau système de détection et de neutralisation qui s'appelle Parade et qui a été mis au point par le français Thales. Il y a eu des exercices qui ont été menés en novembre et en mars dernier et ce système Parade a fait preuve d'inefficacité. Parade pour programme de protection déployable modulaire anti-drone. Lors du dernier exercice, les essais d'interception auraient même été désastreux. Le système n'était capable que de repérer un seul drone sur trois et à une distance de seulement 800 mètres. Et a priori, le procédé fonctionnerait correctement avec des drones lents et réalisant des manœuvres limitées. Mais dans les autres cas, eh bien, il laisserait passer les drones au travers des mailles du filet de surveillance. Ça, c'est totalement inquiétant, cet article. Signe de l'inquiétude qui règne autour du sujet, il y a un rapport dédié à la lutte anti-drone qui vient tout juste d'être classé secret défense par les sénateurs de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Le dossier serait trop sensible et il reste nécessaire de réaliser des recommandations pour améliorer la sécurité nationale, selon les sénateurs. Ok. La Direction générale de l'armement qui pilote le dossier est mise à contribution pour demander à Thales d'améliorer son système. Malgré d'importants retards pour les livraisons, de son côté, l'industriel dédramatise et se veut rassurant en expliquant que le système sera opérationnel à temps. On l'espère bien sûr. En France, les drones présentent une menace importante car ils sont faciles à utiliser. Ils sont des millions et qu'il n'est pas compliqué ni coûteux de les convertir en armes. Et de son côté, le système, donc ce système Parade, va combiner des radars, des systèmes de surveillance des émissions radio et des caméras supposément capables de détecter les menaces. Et donc les systèmes défensifs comportent, eux, des brouilleurs, des drones porteurs de filets ou bien de la destruction d'un drone. Et ce dernier cas de figure n'est toutefois pas prioritaire en raison des risques encourus par la chute des débris de l'appareil qui sera abattu. Ben oui, effectivement, s'il y a un drone qui est abattu au-dessus d'une foule, ok, on a abattu le drone, mais il tombe sur qui ? C'est toute une question. Alors, reste que si du côté de Thales, il est toujours possible de corriger le tir avant le début des Jeux Olympiques, la pendule tourne sans doute trop vite pour pouvoir s'assurer que le système est suffisamment performant et réaliser dans la foulée la mise à jour de la formation des opérateurs. En attendant, l'armée de l'air mise sur d'autres systèmes alternatifs et notamment le Basalt mis au point par l'entreprise HoloGuard. Mais donc voilà, un rapport confidentiel s'alarme des failles dans le système anti-drone des Jeux Olympiques de Paris. Voilà, je pose ça sur la table et puis maintenant, ça devient de... Je ne sais pas. Bref, allez, on va parler de fromage. Ça va être assez intéressant parce que depuis de nombreuses années, sans que rien ne soit démontré, on suspecte les produits laitiers comme potentiel responsable de rhinite chez les enfants, d'eczéma ou même de respiration sifflante, alors même qu'ils sont riches en micronutriments, en acides gras et en probiotiques. En 2012, il y avait une étude de l'université de Cambridge qui avait même suggéré que les yaourts ou la crème pouvaient augmenter le risque qu'un enfant développe des allergies ou de l'asthme. En ce qui concerne ce dernier cas, ce genre de recherche n'est pas à prendre à la légère, puisque l'asthme constitue l'une des maladies chroniques les plus courantes. Alors qu'aux États-Unis, on estime qu'elle touche plus de 6 millions d'enfants, en France, il y a plus de 4 millions de patients qui sont concernés, que ce soit des enfants et des adultes. Il y a de nombreux facteurs de risque qui ont déjà été pointés du doigt par la communauté scientifique. On a parlé aussi bien du tabagisme que de l'exposition à des produits chimiques, ou la pollution, ou le pollen, le stress, tandis que des facteurs génétiques joueraient aussi un rôle à prendre en compte. Alors, il y a une nouvelle étude, cette fois, qui a été réalisée par l'Université des sciences médicales de Yazd, c'est en Iran, qui jette un nouveau pavé dans la mare en allant à contre-courant du rôle que l'on avait attribué aux produits laitiers en cas d'asthme. D'après donc cette étude publiée dans la revue Frontiers in Nutrition, les chercheurs estiment que les yaourts, les fromages et les crèmes pourrait réduire le risque de respiration sifflante chez les enfants et les adolescents. Alors attention, les scientifiques iraniens évoquent bien l'intérêt de ces catégories de produits laitiers et pas du lait. Hein, on parle bien des produits laitiers, mais pas du lait. L'exemple iranien est d'autant plus signifiant que la plupart des recherches précédemment réalisées au sujet de l'association entre asthme et produits laitiers l'ont été dans des pays développés. Donc là, c'était intéressant parce qu'on est dans une étude, dans un pays où on n'avait pas nécessairement mené des expériences sur ce domaine-là. Or, un rapport de l'étude internationale sur l'asthme et les allergies chez l'enfant s'était situé dans les années 1998-2004. Cette étude avait souligné la prévalence de l'asthme chez les enfants iraniens et au cours de cette seule période, on avait même remarqué une augmentation assez significative d'asthme chez ces enfants iraniens. Donc, de leur côté, les chercheurs iraniens de l'Université des sciences médicales de Yazd rappellent que les habitudes alimentaires du Moyen-Orient présentent des caractéristiques uniques. Elles contiennent de grandes quantités de fruits et de légumes, des sources riches d'antioxydants et de grandes quantités de glucides raffinés et de graisses nocives, et donc peu ou pas de produits laitiers. Cette étude transversale a embarqué des enfants âgés de 6 et 7 ans, mais aussi des adolescents de 13 et 14 ans. Et ce sont notamment les habitudes alimentaires qui ont été suivies durant 11 mois. Pour comprendre ce potentiel lien entre l'asthme et les yaourts, eh bien, les scientifiques rappellent que l'activité prébiotique des produits laitiers résulte probablement de la stimulation de la croissance de bactéries bénéfiques dans les intestins qui peuvent moduler les réponses immunitaires et ainsi protéger les humains de l'asthme et des allergies. Et donc les protéines du lait, notamment la lactalbumine, la lactoglobuline et les immunoglobulines, et ainsi que d'autres molécules, enfin d'autres protéines, d'autres enzymes, seraient donc à l'origine de cet effet protecteur. Pour autant, les auteurs indiquent bien qu'il ne faut pas être trop hâtif dans la conclusion. C'est impossible d'indiquer les produits laitiers comme des protecteurs contre l'asthme. Hein, donc attention à cette étude, à prendre un petit peu de recul quand même. Non seulement il y a d'autres études qui doivent être menées pour confirmer ces résultats, mais en plus, la respiration sifflante n'est pas toujours le fait de l'asthme, mais aussi d'autres maladies comme le reflux gastro-œsophagien ou des bronchites bactériennes persistantes. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une étude qui concerne un pays qu'on évoque rarement dans cette émission, qui est l'Iran, sur lequel il n'y avait pas nécessairement une étude assez poussée sur l'asthme. Deux, cette étude donne des résultats un peu contraires par rapport à ce qui avait été envisagé, étudié, prédit. Trois, on est sur une étude et donc on va développer un petit peu, essayer d'en refaire d'autres, en tout cas approfondir cette piste, parce que si on caricature et on schématise ce sujet, ça serait l'idée d'avoir des yaourts et des fromages pour se préserver de l'asthme. Si c'est le cas, c'est vrai que c'est intéressant. Donc c'est ce que montre cette étude, mais là encore, à prendre beaucoup de pincettes. Même les chercheurs disent qu'il faut bien sûr approfondir les résultats, bien évidemment. Mais c'était intéressant d'aborder, ne serait-ce que d'aborder l'Iran dans cette émission. Il est vrai qu'on parle très peu de l'Iran au niveau de l'actualité scientifique. Et c'était l'occasion. Allez, on écoute un dernier titre dans cette émission et on terminera de feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Vous écoutez Biotine. Mais oui, vous êtes tellement bien. Je crois que je vais remettre le même titre, en fait. Oui, excusez-moi. Je remettais Beach House. Je me disais, mais ça me dit quelque chose. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Ben, ça arrive parfois. Oui. C'est du direct. Je vais mettre cette fois Slim and the Beast sur l'antenne de Graphite. Excusez-moi, c'est un autre titre. Si je vous mets toujours le même titre, au bout d'un moment, ça va peut-être vous saouler, hein, je pense. Allez, vous êtes bien sur l'antenne de Graphite et un nouveau titre sur Biotine. Yeah.
goodbye. So much left to describe. He says I'm désolé, je ne parle pas français. And as he walks away, she gives him a smile, but all that he heard were lovely little passwords. Feelings floating up, so hard to capture. All just kind of sounds like ooh la la. Tongue tied, he can't get it right. Oh, mixed up, tongue tied, he can't say it right. Twisted up, getting kinda late. Last call, now there's one more move to make. Ask her what she's drinking, she says désolé, je ne parle pas anglais. And as she slips away, he searches the crowd. Simple things ain't always understood. And when the words don't feel the way they should, they all just gotta sound like ooh la la.
Voilà, c'était Simon the Beast avec Tongue Tied sur l'antenne de Graphite. Moi non plus, je parle pas l'anglais. Si peu, si minablement en fait. Alors, on va terminer cette émission avec cet article que je trouvais assez intéressant, qui parle des émotions négatives qui sont d'une manière générale considérées comme nocives pour la santé. Mais il semblerait que la colère le soit tout particulièrement. C'est le constat fait par une équipe de chercheurs américains qui explique que de brefs épisodes de colère sont susceptibles d'altérer le fonctionnement des vaisseaux sanguins. Une anomalie elle-même associée à un risque accru de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Nombreuses sont les situations qui peuvent nous emmener à voir rouge, hein, que ce soit au travail, bien sûr, dans les transports, oh là là, dans son couple, mon Dieu, et de façon générale dans sa vie professionnelle et personnelle. Mais au-delà du stress et de l'anxiété que peuvent générer de tels épisodes de colère, peuvent-ils également nuire à votre santé globale? C'est la question. Eh bien, la réponse serait oui. Réponse justement de ces chercheurs américains qui se sont plus spécifiquement intéressés à l'influence de plusieurs émotions négatives, dont la colère, la tristesse, l'anxiété et donc l'influence sur la fonction des vaisseaux sanguins par rapport à ce que l'on pourrait appeler une émotion neutre. Le tout visant à déterminer si ces sentiments particuliers particuliers pouvaient in fine jouer un rôle sur certaines maladies cardiovasculaires. Alors pour les besoins de ces travaux, les scientifiques ont soumis au hasard 280 adultes à ce qu'ils ont nommé une tâche émotionnelle pendant 8 minutes. Chacun des participants pouvait tomber soit sur un souvenir personnel l'ayant mis en colère, soit sur un souvenir personnel lié à de l'anxiété, soit sur la lecture d'une série de phrases déprimantes associées à de la tristesse, soit sur l'énumération de chiffres et de nombres jusqu'à 100. En fait, dans le dernier cas, c'est une émotion neutre qui a été attendue par les chercheurs. Le fait qu'on entende les chiffres de 1 jusqu'à 100, pour les chercheurs, c'est une émotion neutre. En moi, ça sera un agacement total, mais bon, on va dire que c'est une émotion neutre. Les scientifiques ont également analysé les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins des participants avant et après les avoir attribué ces tâches spécifiques. Et ils ont un petit peu analysé ça tout de suite après et jusqu'à une heure, voire une heure et demie après cette phase d'émotion. Ça a été publié dans le Journal of American Heart Association. Les conclusions donc, de ces travaux mettent en évidence une altération de la dilatation des vaisseaux sanguins liée aux souvenirs ayant provoqué des épisodes de colère, et ce, juste après, jusqu'à 40 minutes après cette tâche émotionnelle effectuée. Au-delà, l'anomalie en question n'apparaissait plus. Mais voilà, c'est quand même intéressant qu'à partir du moment où on a un moment de colère, 40 minutes après, on a encore au niveau des vaisseaux sanguins une répercussion, une conséquence sur les vaisseaux sanguins. Cette altération entraînait, elle, un risque accru de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Notons que les souvenirs ou les actions liées à l'anxiété et à la tristesse n'ont pas eu les mêmes effets. Nous avons constaté que le fait d'évoquer un état de colère entraînait un dysfonctionnement des vaisseaux sanguins, bien que nous ne comprenions pas encore ce qui peut provoquer ces changements. C'est ce qu'explique Daichi Shimbo, qui est justement celui qui a mené cette étude. Et en fait, ce n'est pas la première fois que des chercheurs établissent un lien entre le mal-être, ou on va dire les émotions négatives dans l'ensemble, et un lien entre ce mal-être et un risque accru de maladies et d'événements cardiovasculaires. Il y a une étude qui a été publiée l'année dernière dans la revue European Journal of Preventive Cardiology, qui a été menée à partir des données de plus de 6 millions de personnes âgées de 20 à 39 ans. Donc c'est intéressant parce que là, on était sur un panel assez important. Et cette étude avait suggéré que les personnes souffrant de troubles mentaux, peu importe leur nature, avaient davantage de risques d'être touchées par une crise cardiaque ou un AVC par rapport à d'autres personnes. Participants. Et plus récemment, des chercheurs américains ont montré que l'air pollué pouvait entraîner du stress et, par extension, accroître donc le risque de décès par maladie cardiovasculaire. Donc c'est ça qui était quand même assez important. Cette étude vient compléter les preuves de plus en plus nombreuses suggérant que le bien-être mental peut influencer la santé cardiovasculaire et que des états émotionnels aigus et intenses, comme donc on l'a dit, la colère, le stress, eh bien tout ça peut entraîner des événements cardiovasculaires. C'est ce qu'explique Gleb Levin, qui est professeur de médecine à Houston et qui a aussi participé au comité de rédaction de cette étude. Et d'ajouter, je cite, « Nous savons par exemple que la tristesse intense ou des émotions similaires sont un déclencheur courant de la cardiomyopathie de Takotsubo et que des événements tels que des tremblements de terre ou même le fait de regarder un match de football en tant que supporter, tout ça, ça provoque un stress, eh bien ça peut conduire à un infarctus du myocarde ou à des arythmies. Mon Dieu. L'un des prochains objectifs des chercheurs sera de déterminer par quel mécanisme ces états émotionnels, dont la colère, impactent de manière significative la santé cardiovasculaire des hommes et des femmes à travers le monde. Mais donc voilà, on est sur un lien entre ces colères et ces émotions négatives qui nous exposent au danger de maladies et d'événements cardiovasculaires. C'est assez intéressant parce que quelque part, on était Oh pardon, excusez-moi, je viens de casser quelque chose. On était sur des suppositions jusqu'à maintenant, et là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus établi. D'autres expériences, bien sûr, vont être menées pour essayer d'approfondir, bien évidemment, tous ces sujets. On aura peut-être l'occasion de pouvoir reparler de cela dans quelques temps, lors d'une prochaine émission de Biotine, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. Allez, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de votre fidélité et de votre attention. On se retrouve samedi prochain, ça sera la dernière de cette saison, et on continuera, voilà, il y a encore quelques articles que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, et on fera un petit point voilà, sur l'actualité scientifique de ce mois de juin, bien sûr. D'ici là, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite, vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine, restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite, et on se retrouve samedi prochain, à bientôt, au revoir, merci.